Concord du Théologie Naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, 21 juin 2001 à Saint-Judas.
Dans le jugement de sagesse, nous avons vu le regard de Dieu sur l'homme créé par l'Esprit à l'image de Dieu. Nous avons vu la distinction entre l'intelligence et la volonté, une distinction analogue et très différente de l'être et de la vie. Vous voyez, on retrouve parallèlement, alors non plus au niveau de l'être, mais au niveau de la vie, la distinction entre être et vie. L'intelligence est faite pour l'être, et la volonté est faite pour la vie. Ne faites pas une distinction univoque, ce serait très, très fou. Mais analogiquement, il y a quelque chose de semblable. Parce que nous vivons par notre amour. Dès que nous aimons quelqu'un, nous vivons. Tandis que l'intelligence, quand vous connaissez un peu mieux, vous ne dites pas « je vis ». L'amour draine notre sensibilité et notre spiritualité. Vous faites bien des distinctions entre l'amour sensible et l'amour spirituel, mais ça se tient. La distinction entre la sensibilité et l'intelligence n'est pas la même distinction qu'entre l'amour sensible et l'amour spirituel. Ça, c'est très important aussi quand nous voyons ces distinctions-là dans un jugement de sagesse. Il y a des analogies. Vous savez, au fond, on étudie la complexité de la créature et l'homme, les néoplatoniciens avaient très fort ce sens-là, de la complexité de l'homme. L'homme, c'est la plus grande complexité du monde animal et c'est la plus grande complexité du monde spirituel. Et c'est une vision de sagesse. Et elle est très juste. Nous sommes plus complexes que tout vivant intellectuel, spirituel. Et nous sommes plus complexes que n'importe quel vivant sensible, et non pas spirituel. Et c'est pour ça qu'ils disent que l'homme est l'horizon entre le monde qui monte de la terre et le monde qui descend du ciel. Il est le point de rencontre de deux mondes. Et dans une vision de sagesse, ce qu'on voit, c'est la complexité de l'homme et l'harmonie. Mais cette très grande complexité fait que c'est pas commode du tout de maintenir l'harmonie. On est, je dirais surtout, on le voit évidemment aujourd'hui, que cette complexité éclate dans tous les sens. On pousse, c'est du reste très curieux à remarquer ça, quand il n'y a plus de clé de voûte, on pousse la diversité le plus loin possible. Et il n'y a plus rien qui unifie. Et c'est peut-être comme ça que l'homme va en quelque sorte ne plus pouvoir vivre. Il y a une trop grande complexité, plus d'unité. Enfin, notre unité dernière et première, c'est Dieu. Si vous supprimez Dieu, vous voyez cette complexité terrible de l'intelligence. La multiplicité des sciences d'aujourd'hui, c'est fou. Cette multiplicité des sciences, c'est l'intelligence. Et l'intelligence court partout. Avant, c'était simple. L'éducation de quelqu'un, c'était simple. Aujourd'hui, on spécialise les gosses à partir de 5 ans. Et vous êtes des spécialistes. Et il faut pousser. Alors pour chaque science, on peut pousser énormément, il faut s'y consacrer tout de suite quand on est jeune. Alors on fait des petites têtes mathématiques, n'est-ce pas, et des gens qui seront très, très astucieux au point de vue mathématique, mais complètement ignorants pour la connaissance amoureuse. Alors ça va sans doute s'éveiller beaucoup plus tard, ils seront canalisés par leur spécialité et l'affectivité demeure toujours. Hein. On ne va pas couper dans le cœur les deux. Hein. Non, on ne fait pas encore ça. Et alors il y aura sans doute un éveil affectif très tard et très intempestif, très violent. Parce qu'on éveille notre cœur dès le début. Et c'est plus facile de corriger les passions quand elles poussent au début. La passion du concupitive est plus facile à corriger à 15 ans qu'à 21 ans. C'est beaucoup plus facile, forcément. C'est une constatation très importante au point de vue du jugement de sagesse quand nous essayons de comprendre la complexité de l'homme. Alors, poussons plus loin de voir cette véritable complexité dans une lumière de sagesse. Et je crois que c'est tout de suite la différence entre la connaissance spéculative et la connaissance pratique. Notre intelligence se développe autrement du point de vue spéculatif, autrement du point de vue pratique. Et dans le point de vue pratique, il y aura encore une distinction entre morale, connaissance affective, et art. C'est normal que ce ne soit pas du côté affectif qu'on voit de la manière la plus forte cette distinction. C'est du côté de l'intelligence. Oui, du côté de l'intelligence. Vous voyez, vous n'avez pas de classification de spécialiste du côté de l'amour. Vous aimerez sensiblement, vous aimerez imaginativement, vous aimerez intellectuellement. Non, ça ne se fait pas. Tandis qu'on fait, à partir des mathématiques, les distinctions de toutes les spécialités. Et on pousse ces distinctions et on fait des distinctions entre le point de vue prudentiel et le point de vue artistique. Vous voyez ? Les distinctions se prennent du côté de l'intelligence. Et du côté de l'intelligence, on voit bien ces distinctions. Et le tort, je crois que c'est le tort, c'est un manque de sagesse, ce qu'on fait actuellement. C'est un manque complet de sagesse. On va faire des fous. Des fous intellectuels matheux. Et c'est terrible, des fous matheux. Parce qu'ils sont sûrs, une certitude extraordinaires. Et ils sont fous, fous en sens, selon le terme étymologique, le fou, il voit qu'une seule chose. Le point de vue artistique, les voies déterminées de l'art, les voies indéterminées de la prudence. Et les voies déterminées de l'art, on les retrouve fondamentalement en mathématiques. Ce sont des voies encore bien plus déterminées. Alors, c'est l'esprit de système. Et l'esprit de système, quand il est appliqué à, je dirais, à la vie humaine, ça fait ou des robots, des esclaves, des types, des spécialistes qui ne savent faire qu'une seule chose. Mais en dehors de leur spécialité, c'est nul. Mais leur spécialité, ils la font bien. Très bien. Alors, c'est difficile de faire que le point de vue mathématique régit la prudence. Vous voyez, alors, c'est ça que j'appelle des fous. C'est-à-dire être en spécialité, on fait de la spécialité une sagesse. Alors, la spécialité, par définition, ne peut jamais être sagesse. Puisque pour la sagesse, il faut atteindre la fin humaine. Alors, c'est bon de comprendre ça philosophiquement, parce que il faut le comprendre philosophiquement. Oui. Pousser la spécialité le plus possible et le plus loin possible dans l'éducation et la formation, n'est-ce pas une très grave erreur? Parce qu'on n'aura plus d'hommes. Au fond, c'est l'élevage des esclaves. On sera spécialisé dans... Et ça se voit même en théologie et en philosophie. On vient un spécialiste du Moyen-Âge. Très bien. C'est pas la philo. Mais comme on est spécialiste et qu'on pousse très loin, on veut être philosophe. Oui. Même quelqu'un d'aussi sage qu'Étienne Gilson, spécialiste du Moyen-Âge, termine sa vie en faisant une métaphysique à partir de son histoire. Et donc, c'est faux. C'est très curieux, cette chose-là. Suivez le cheminement de spécialistes. Tôt ou tard, ils veulent être des sages, dans leur spécialité. C'est-à-dire, ils veulent que leur spécialité mesure la connaissance, devienne l'emprise de la sagesse. Ils ne sont pas sages. Ils ne peuvent pas avoir la sagesse dans leur spécialité. Alors, c'est ça qu'on doit voir avec beaucoup de netteté dans un jugement de sagesse. Et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de jugement de sagesse. Plus du tout. Même en philosophie, même en sagesse, même en théologie. Il n'y a plus de jugement de sagesse. Il y a des spécialistes. Ils sont très bons comme spécialistes. Mais dès qu'ils débordent leur spécialité, ah non, vous ne pouvez pas être un sage. Et un historien ne peut jamais être un sage. Il n'y a pas de sagesse à étudier le passé. Impossible. La seule sagesse, c'est Dieu. Et c'est très curieux parce que l'homme porte en lui cette distinction fondamentale entre théologie spéculative et théologie pratique. L'homme porte en lui ce désir absolu d'atteindre Dieu. C'est ce qui, en nous, est le plus radical. Cette soif de Dieu. Et cette soif de Dieu, c'est d'atteindre Dieu. Mais par la véritable voie. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu par tous les chemins. C'est très bien le pluralisme, c'est très bien d'accepter tout le monde, mais vous êtes bien obligé de dire, par cette voie-là, vous n'atteindrez jamais Dieu. Et donc, vous n'atteindrez jamais la sagesse. Vous ne pourrez pas l'atteindre. Dire ça, ce n'est pas du tout une voie unique. Non. C'est tout simplement la prudence. Et la sagesse. Pouvons-nous atteindre l'existence de Dieu réellement? Par diverses voies. Oui, le Saint-Père, dans son encyclique Foi et sagesse et foi et raison, nous montre bien l'Église n'a pas de philosophie, mais seule une philosophie de l'être, il ne le dit pas comme ça, hein. Il dit seul, une philosophie sapientiale peut aider la théologie. Donc seule une philosophie qui atteint la sagesse. Et on doit pouvoir philosophiquement reconnaître par quel chemin je passe à la sagesse. Je ne peux pas atteindre la sagesse par n'importe quelle route. Alors vous voyez, quand on a pris une fausse route et qu'on vieillit, on veut atteindre la sagesse. Et on veut l'atteindre par la voie qu'on a prise. On n'ose pas dire, une voie qui n'aboutit pas. Non, on veut qu'elle aboutisse. Et on se la forge. Et on est dans l'erreur. Et c'est difficile à reconnaître. C'est pas commode à reconnaître. Parce que quand l'homme arrive à 50, 60 ans, il veut la sagesse. Et il avait une spécialité. Sa spécialité, il ne peut pas atteindre la sagesse. Il doit accepter de reconnaître que c'est une spécialité et qu'il doit prendre une autre route. Se faire petit novice à 60 ans. Pas commode, hein. C'est ça que nous devons essayer de comprendre dans une vision de sagesse. Et dans une vision de sagesse, une fois que nous avons découvert l'existence de Dieu, nous voyons qu'il y a une distinction réelle entre intelligence et volonté. C'est déjà fameux, ça. Intelligence et volonté. Nous voyons que seule l'intelligence peut atteindre l'existence de Dieu. L'amour galope plus et avant. Saint Thomas le dit, l'amour va plus loin, mais un véritable amour pour atteindre l'existence de Dieu, c'est que l'intelligence doit intervenir. Autrement, ce sera l'imagination. Et on atteindra Dieu comme un mythe. Tous ceux qui étaient Dieu par un mythe, ils sont nombreux, hein, les mythes de l'existence de Dieu. C'est parce que, affectivement, l'intelligence n'a pas rejoint leur amour, n'a pas aidé leur amour, ne s'est pas développée dans leur amour. Alors, on fait en emprunt l'ersatz de l'intelligence, c'est l'imaginaire. Alors on part du côté des possibles. C'est possible que Dieu soit tel ou tel, toutes les possibilités qu'il y a eu, et on n'atteint pas le véritable Dieu. En tant que chrétiens, nous avons l'immense joie et l'immense sécurité de prendre un guide, Jésus. On est sûr d'atteindre le Père par Jésus. On a une voie, mais celui qui n'a pas la foi, il n'a que l'intelligence. Et il doit pouvoir atteindre Dieu par son intelligence. Oui. Alors, premier jugement de sagesse sur la distinction entre l'amour et l'intelligence. Et on voit que l'intelligence est la colonne vertébrale. C'est aride, c'est très aride, c'est... On doit monter en corde raide, verticale. Pas un escalier. Un escalier, on peut se reposer à chaque marche. Tandis qu'on se monter à la corde raide, on ne peut pas se reposer à chaque marche. Il n'y en a pas. Alors, on est obligé de dire, il faut y aller, il faut y aller. Grimpe toujours, parce qu'une fois que tu commences à dégringoler, tu dégringoleras jusqu'au bout. Donc il faut monter. On est talonné pour ça. Et c'est ça les découvertes de l'intelligence. C'est la découverte de ce qui est raide, ce qui est aride. Mais c'est sûr, c'est évident. Et c'est la seule voie qui me permet intellectuellement d'atteindre Dieu. Je ne peux pas atteindre Dieu par la vie, par l'amour. L'amour me sert de me donner l'énergie d'aller toujours plus loin. Mais je cherche la vérité. La vérité affective, ah, elle est limitée. Parce qu'elle implique toujours l'expérience. Je peux aimer affectivement une personne, oui, mais Dieu, il faut d'abord le découvrir. Autrement, je tombe dans l'imaginaire. Prenez la comparaison de l'escalier et de la corde raide. Et voyez jusqu'où cette comparaison peut vous aider à saisir ce que c'est que l'intelligence et la métaphysique. C'est une corde raide. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va beaucoup plus vite. Mais c'est dur. Donc, distinction entre intelligence et volonté. Distinction, mon intelligence est complexe. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas substantielle. Je vois que mon intelligence n'est pas substantielle. Je participe à l'intelligence de Dieu. Je ne suis pas premier dans l'intelligence. C'est justement parce que je ne suis pas premier dans l'intelligence que je peux, par mon intelligence, découvrir Dieu. Parce que je cherche le premier. Je cherche toujours le premier par l'intelligence. Je ne peux jamais m'arrêter à quelque chose de second, à quelque chose de participé, à quelque chose de relatif. Je dois monter. Je veux bien accepter que des choses relatives, quelquefois, sont très importantes. C'est un nœud. Je peux m'arrêter un petit peu, mais ce n'est pas une marche. Hein. C'est un nœud. Ce n'est pas la même chose. Ça permet un tout petit repos de repos. Je cherche le premier. Et l'intelligence cherche toujours le premier. Jusqu'au moment où elle a découvert. Il existe nécessairement un premier être. Première personne. Vous voyez, je dépasse l'amour pour dire ça. C'est dans l'amour, mais c'est dépasser l'amour. Je me sers de l'amour. L'intelligence est au service de l'amour et l'amour est au service de l'intelligence. L'amour est au service de l'intelligence pour découvrir l'être premier. Et c'est le plus grand service qu'elle peut rendre à l'intelligence. et l'amour et l'intelligence est au service de l'amour pour découvrir la personne humaine. Vous pourriez faire ça. C'est intéressant à bien remarquer. Vous voyez, l'amour est au service de l'intelligence pour découvrir la personne premier être. Et l'intelligence est au service de l'amour pour découvrir l'ami humain, la personne humaine. Et ce sont des deux côtés, c'est la plus grande noblesse de l'un et de l'autre. Serviteur du roi. Donc, c'est pas n'importe quel service. Et dans l'intelligence qui n'est pas substantielle, qui n'est pas simple, qui est participée, la première distinction, c'est l'intelligence faite pour contempler et l'intelligence faite pour agir. L'intelligence faite pour contempler a cet immense privilège. C'est là où elle est royale. Elle a cet immense privilège qu'elle peut mettre l'amour à son service. Et ça, c'est la dignité suprême de l'intelligence. Et c'est la grandeur suprême de l'intelligence. Mettre l'amour à son service, au service de la vérité, au service de la recherche, de la découverte de la vérité. C'est la découverte de Dieu. Dans l'intelligence pratique, le grand service de l'intelligence se met au service de l'amour humain pour découvrir l'ami. Alors là, j'ai deux espèces d'intelligence. Tu vois, pas deux espèces, deux orientations différentes de l'intelligence. L'intelligence qui reste elle-même jusqu'au bout. L'intelligence, quand elle découvre Dieu, l'existence de Dieu, il est nécessaire qu'il existe un être premier, une première personne. L'intelligence a été elle-même jusqu'au bout. Et elle s'est achevée dans un acte contemplatif. La contemplation est une activité intellectuelle la plus parfaite. À ce moment-là, je vois combien l'analyse scientifique, toutes les possibilités multiples, l'intelligence dans ses spécialités sont vaines si elle n'accepte pas l'intelligence spéculative. Vaine, c'est-à-dire n'atteint pas sa fin. La fin de l'intelligence ne peut être que la découverte de Dieu. Alors, c'est pas étonnant que ceux qui ne découvrent pas l'intelligence de Dieu sont comme des petits chiens qui aboient. Ils aboient tout le temps, ils sont en colère. Leur irascible est furieux, ils n'atteignent pas la fin. Ils ne peuvent pas atteindre la fin. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu par des sciences par des spécialités particulières, des connaissances particulières. C'est rude, hein? Mais ça, la vision de sagesse le montre merveilleusement. Et on doit l'affirmer. Vous voyez, dans un monde comme le nôtre, comme pour la vision de sagesse, pour l'intelligence, donc pour l'intelligence philosophique, est rare. Et c'est pour ça que le Saint-Père avait tout à fait raison en disant « Où est-ce qu'on l'enseigne encore ?» Le démon est arrivé à faire que les spécialités ont tellement bon goût qu'on s'y attarde et qu'on s'y perd et qu'on reste jusqu'à la fin de sa vie dans sa spécialité, n'ayant plus rien à manger. Est unique. Est unique. Il y a deux manières d'être unique. L'unité univoque du genre et l'unité analogique qui aboutit à Dieu. Alors que la sagesse qui sait qu'il y a une voie unique pour atteindre Dieu soit farouche pour cette unité, raison, puisque c'est la seule manière d'atteindre la sagesse. Tandis que si on est farouchement pour l'unité dans une spécialité, on fait erreur, divocité. Donc, l'intelligence qui cherche la vérité pour elle-même, c'est ça l'intelligence spéculative. Elle cherche la vérité pour elle-même. Et elle aboutit nécessairement à la métaphysique. Parce que l'être, c'est ce qui est à la racine de tout ce qui est. Tout le reste est second. Et donc, ne me fera jamais découvrir le premier. C'est sûr. Il n'y a que le premier qui peut être relatif au premier. L'être seul est relatif à Dieu. Chaque fois que vous découvrez l'être, vous découvrez quelque chose qui est relatif à Dieu. Tandis que si vous découvrez la vie, vous restez dans le vivant, vous ne dépassez pas les formes, vous ne dépassez pas les habitus, vous ne dépassez pas les qualités, vous ne dépassez pas la relation. L'intelligence pratique, c'est une intelligence qui cherche à tendre vers la fin. C'est une intelligence des moyens. Alors, cette intelligence des moyens, c'est-à-dire de tout ce qui est relatif, c'est l'intelligence de tout ce qui est relatif. Alors, vous comprenez, il y a beaucoup de choses relatives, puisque toute créature est relative. Et vous voyez donc que dans la créature, vous pouvez saisir ce qu'il y a d'absolu en elle et de relatif à Dieu, ou de découvrir ce qu'il y a de relatif en elle-même, comme créature. Il y a toujours cela. Dans une vision de sagesse, je vois que l'intelligence, forcément, si elle cherche à découvrir ce qu'il y a d'absolu, c'est découvrir ce qui est relatif à Dieu. Alors à ce moment-là, elle cherche la vérité pour elle-même. Tandis qu'autrement, elle cherche le relatif, ce qui, pour moi, je peux le posséder. Le relatif a cet immense avantage, c'est qu'il peut être ma propriété. Tandis que l'absolu a cet immense avantage que je ne peux jamais le posséder. Je suis toujours en état de pauvre, c'est-à-dire celui qui ne possède pas. C'est ça la pauvreté, celui qui ne possède pas. Donc celui a soif parce qu'il ne possède pas. Quand je suis dans l'étude spéculative, mon intelligence accepte cette pauvreté. Ce qui n'est pas commode, hein, parce que je sais que je ne peux alors me reposer qu'en Dieu. Mon intelligence, comme intelligence, ne peut avoir de repos qu'en Dieu. Ça, c'est l'intelligence spéculative. Tandis que l'intelligence pratique, elle se repose quand elle veut. Ah, ça, c'est agréable. J'ai toujours un strapontin. Et je voyage avec mon strapontin. Et je l'ouvre constamment. Et plus je vieillis, je l'ouvre tout le temps. Quand je suis encore ardent, ben oui, je m'en strapontin, hein, ce que je m'en reposais. Toute intelligence pratique est à l'égard d'un moyen que je peux posséder, que je possède par l'amour, que je possède de deux manières différentes, en me construisant moi-même ou en construisant le monde qui est autour de moi. En me construisant moi-même, c'est me connaître et connaître toutes mes possibilités. C'est la prudence. Connais-toi toi-même. La prudence consiste à se connaître, à connaître toutes les forces qu'on a en nous. Et à côté de la prudence, il y a la connaissance qui peut modifier le milieu dans lequel je vis. Transformer ce milieu, c'est l'art. L'art consiste à créer sa maison, à créer son lit, à créer sa chaise, à créer son strapontin. Il soit le plus léger possible, puisqu'il m'accompagne tout le temps. Il est un peu lourd. Alors on fait des strapontins toujours plus légers. On cherche tout le temps d'aller plus loin, de raffiner davantage. Mais je vois qu'il y a trois conduites. Mon intelligence a trois directions. C'est très fondamental, ça. L'intelligence, participer. Celui qui prétend que l'intelligence est substantielle n'a plus qu'une seule voix. Il est platonicien. À la place de découvrir Dieu, il se découvre. Parce que la substance, c'est moi. Et donc si mon intelligence est substantielle, je ne découvre que moi. Je me raffine toujours plus. J'arrive à être un hégélien. J'ai beaucoup de demeures intérieures. Mais sur moi, et en définitive, je suis la pensée de la pensée. c'est vrai de Dieu, c'est vrai de l'intelligence première, mais c'est faux, c'est imaginatif, c'est l'intelligence participée. L'intelligence participée doit accepter que son repos d'intelligence ne peut être que Dieu, donc de sortir de soi. La plus grande façon de sortir de soi, c'est découvrir Dieu. Et c'est la plus grande façon de découvrir l'intimité profonde qu'on a. Puisque Dieu, il me porte comme créateur. Oui, c'est pas un strapontin. C'est Dieu qui me porte. Et je me repose en Dieu. Et je peux me reposer en Dieu. Parce qu'il est créateur. Tandis que je vois que mon intelligence, quand justement, elle n'est plus sagesse, elle ne tend plus vers le premier. Cette intelligence se replie sur soi. C'est Dieu ou moi. Et c'est comme ça, hein. En réalité, c'est comme ça qu'on travaille distingué. C'est ceux qui cherchent la sagesse et ceux qui se replient sur eux-mêmes. Et on peut se replier sur soi-même de multiples façons. Parce que la psychologie, c'est un repli sur soi. Dieu n'est pas dans la psychologie. Donc c'est un repli sur soi. C'est nécessaire peut-être de le faire de temps en temps, quand il y a un boulot qui se dévisse, c'est nécessaire de le remettre à vis. Quand il y a quelque chose un peu fêlé, c'est nécessaire, ça fait beaucoup de bruit. Quand il y a une fêlure, en automobile, on s'aperçoit tout de suite, il y a une fêlure, ça fait un vacarme effrayant. Et plus on va vite, plus ça fait de vacarme. Recherche de soi. Alors quand ils passent, ils font tellement de bruit qu'on s'écarte. Tandis que celui qui cherche la sagesse ne fait aucun bruit. Il est dans la simplicité. Donc c'est ou la recherche de Dieu, ou soi-même. Et moi-même, je me trouve de deux façons. C'est très juste de se chercher soi-même. C'est pas faux. C'est très juste quand on cherche Dieu. Dieu veut que je me cherche moi-même. Dieu veut que je me connaisse. C'est très bien de se connaître. Mais ceci devient asphyxiant dès que je supprime la recherche de Dieu. Et dans ma vie, dès que j'ai supprimé la recherche de Dieu, ça devient asphyxiant de me regarder tout le temps. Je ne vis plus. Je ne peux plus vivre. Alors, tous les systèmes philosophiques, ils sont retournés sur soi-même. En réalité, je vois que être retourné sur soi-même, c'est légitime au point de vue moral. C'est légitime au point de vue artistique. Retourner sur soi-même, c'est de voir ce que je dois faire, ce que Dieu me demande de faire. Alors c'est légitime de se replier sur soi. Mais toujours en ayant affirmé avant cette recherche de la sagesse. Au fond, c'est ça qui est un peu terrible. Se replier sur soi-même, c'est légitime en morale. C'est légitime dans la durée. Ce n'est pas légitime dans une connaissance spéculative. parce que dans une connaissance spéculative, je ne suis jamais premier. Je ne suis pas la vérité. La vérité, c'est Dieu. Et donc, je ne suis pas premier au point de vue spéculatif. C'est ça qui est très beau, de bien découvrir cette connaissance contemplative. Dans cette connaissance contemplative, je ne suis pas premier. Donc, connais-toi toi-même. C'est tout à fait légitime en morale. Connais-toi toi-même, c'est pas légitime en spéculation. Ça, dans une vision de sagesse, je peux le dire. Et je le dis tout de suite. Alors, voyez, la connaissance mathématique, elle est très curieuse. Hein, parce que ce n'est pas du spéculatif. Et ce n'est pas du moral. C'est quoi ? C'est mathématique. C'est très curieux. C'est entre deux. La connaissance mathématique ne fera jamais connaître Dieu. Donc, c'est du faux spéculatif. Et quand la connaissance mathématique, à tout prix, ce qui arrive aujourd'hui, hein, la connaissance mathématique, est présente partout. Aujourd'hui, dans toutes les connaissances scientifiques modernes, actuelles, contemporaines, les mathématiques sont nécessaires. Elles sont présentes pour formaliser, pour préciser. On ne formalise plus par une logique pure qui provient de la métaphysique, mais on formalise par le point de vue mathématique. La logique mathématique. Et les mathématiques sont entre le spéculatif, donc connaissance contemplative, connaissance pratique. Les mathématiques. Alors, qu'est-ce que j'en fais dans une vision de sagesse ? Je dois bien voir le problème, hein, et le voir avec beaucoup d'acuité. C'est légitime qu'au point de vue connaissance pratique, je suis premier à me connaître en connaissance morale. Je suis premier en connaissance artistique. C'est sûr. Et c'est du reste une expérience classique qu'on fait. Hein. Connaître quelqu'un qui respecte la contemplation de Dieu et qui a une vraie prudence, c'est beau. Connaître un véritable artiste, c'est beau. Et là, entre deux, les maths. Alors, comment classer ça, ce développement de l'intelligence du côté mathématique ? Comment le classer dans une vision de sagesse ? Quel est le premier dans l'ordre mathématique ? Qu'est-ce qu'il y a de premier ? Donc, en référence, du moins, tout est en référence à l'égard de ce premier. Quelle est la clé de voûte ? La clé de voûte dans la connaissance pratique, c'est moi. J'ai le droit de dire que dans l'ordre moral, Je suis premier, je suis responsable de mes actes. On peut me donner d'excellents conseils, mais en définitive, je suis obligé de dire si je suis une personne. C'est moi qui juge. C'est terrible, c'est comme ça. Je peux vous donner un conseil, mais pas plus. L'acte, c'est vous qui le posez. Et c'est le respect qu'on a vis-à-vis de l'autre. L'autre, au point de vue moral, m'échappe toujours. Autrement, vous ferez tous les gens des petits toutous qui courront derrière vous. Non. Et au point de vue artistique, c'est du reste. Pas la peine de le dire. L'artiste comme artiste m'échappe toujours. Et son jugement est impossible à changer. On peut donner des conseils aux artistes, mais il retombe sur ses pattes, tout le temps, admirablement. Et il a raison. C'est ça qui est très beau, il a raison. Mais le bateau, ça pose un très gros problème, surtout quand on sait l'importance des mathématiques dans notre monde d'aujourd'hui. Où les mathématiques ont pris, dans le développement des diverses sciences, la place de la métaphysique. Alors, est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est monstrueux? On doit être conscient de cela. Vous voyez, c'est le jugement de notre monde dans une vision de sagesse. Puisque l'intelligence est la colonne vertébrale de l'homme, toute déviation de la colonne vertébrale se fait ressentir. Surtout dans la vieillesse. Quand on est jeune, on est encore souple. Là, on se peut. Et je voyais des petits Valaisans qui descendaient la montagne avec en ski en faisant des pirouettes. J'ai demandé ça à quelqu'un de 40 ans de faire ça. Et sur de se casser la tête. Mais il fait des pirouettes. Avec leur petit ski. C'est très beau. On voit la souplesse. Et le ski s'ajoute. Hein. On a déjà une souplesse naturelle. Quand il n'y a rien, je comprends très bien. On peut être du boulet qui dégringole. Mais le ski s'ajoute. C'est les mathématiques qui s'ajoutent à l'intelligence. Le ski. Et qu'il faut une intelligence très profonde, très étendue. Pas très profonde, très étendue, très large. Vous voyez ? Alors je me pose la question, et la question doit être posée, ce développement intense des mathématiques qui prennent la première place. Dans notre monde d'aujourd'hui, les mathématiques prennent la première place. Est-ce légitime ? Ou est-ce monstrueux ? Alors, je me pose la question, je reviens toujours à cette question. Y a-t-il une référence en mathématiques, un premier ? Il y a un premier en connaissance spéculative, c'est Dieu. Il y a un premier en connaissance morale, c'est moi. Il y a un premier en connaissance artistique, c'est l'artiste. Relatif au monde. L'artiste est dépendant du monde, parce qu'il est dépendant de la matière. Tandis que le moraliste, non, c'est lui. Il est dépendant plus grand de l'artiste. L'artiste est dépendant du milieu dans lequel il se trouve. Alors, je crois qu'en mathématiques, il n'y a pas de référence. C'est l'infini. C'est-à-dire qu'il peut aller toujours plus loin. Je crois bien. Parce que l'être mathématique, il se crée. C'est pour ça qu'on l'aime tellement. Parce que c'est le mathématicien qui le crée. Il se crée dans l'intuition mathématique. Et par le fait même, d'une certaine manière, il peut tout le temps se créer. C'est l'intelligence liée à l'imagination qui a la possibilité d'aller toujours plus loin. Parce que si je réfléchis sur ces différentes manières que l'intelligence peut se développer, je vois que dans l'intelligence spéculative, c'est l'intelligence séparée qui peut atteindre une réalité séparée de la matière, complètement séparée de la matière, purement spirituelle. Dans l'intelligence morale, c'est l'intelligence liée au cœur, à la volonté, à l'amour. Dans l'intelligence artistique, c'est l'intelligence liée à l'imagination. C'est très bien. Possible. Et l'intelligence mathématique, elle est liée à l'imagination d'une autre manière. Parce que l'artiste regarde le possible réalisable. Le matheux regarde le possible pour lui-même. Alors, je comprends le possible pour lui-même, mais l'impossible peut devenir possible pour lui-même. Il n'y a plus d'impossible. Le possible pour lui-même, il se tient. C'est l'harmonie avec le tout. Et le possible est en référence au tout qu'on s'est soi-même fabriqué. Les mathématiques ont la référence en elles-mêmes. Le sage, la connaissance spéculative, est en référence à Dieu. La connaissance morale est en référence à l'homme, la conscience de l'homme. La connaissance artistique est en référence au monde physique qui existe. Il ne peut pas construire l'impossible. Il est en référence au monde physique. L'architecte, le peintre, toujours. Le mathématicien est en référence au mathématicien, c'est-à-dire au possible. Le possible, parce que l'être mathématique, c'est le possible. Ce n'est pas l'être réel. C'est l'être possible. C'est pas l'être de l'imagination romantique. L'imagination liée à l'amour. Non, pas ça du tout. C'est lié à la raison. Il raisonne, le mathématicien. Et donc, il n'y a pas de limite. Le monde mathématique peut s'étendre indéfiniment. Il peut conquérir indéfiniment des espaces. Et c'est ce qu'il fait. On a un monde mathématique, artificiel, mais mathématique, possible. Je connais quelqu'un qui est dans les recherches mathématiques spatiales. Qu'est-ce qu'on peut faire entre les différents mondes ? On n'a pas de référence, sauf les mathématiques. Est-ce qu'on peut encore le penser mathématiquement ? Alors, ça peut s'étendre. Vous voyez, la vision de sagesse sur l'intelligence, c'est d'essayer de structurer toutes les possibilités que mon intelligence peut avoir, comme dans ses recherches. et de voir qu'il n'y a qu'une sagesse. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une sagesse. Celle qui me permet d'atteindre Dieu. Alors, il y a des quantités de voies qui me conduisent à Dieu. Ah ça oui, tout à fait, des quantités de voies. Il n'y en a qu'une qui atteint Dieu. Celle qui touche le Créateur.